Nous vous proposons une nouvelle édition de Du côté de chez Schwarz, l'émission actuelle et culturelle de Radio Shalom. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Delphine Durand pour son très beau livre « Serge Kantorowicz, le meneur d'ombre » paru chez Sylvana Editorial. Bonsoir Delphine.
Bonsoir Sandrine.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, c'est une première dans cette émission. Et pour débuter, quelques mots de présentation et n'hésitez pas à m'interrompre si vous voulez ajouter des choses. Vous êtes docteur en histoire de l'art et en histoire des religions. Après des études à Strasbourg, vous avez publié des anthologies, des monographies, dont celle sur Bruno Edan, ainsi que plusieurs recueils poétiques. Aujourd'hui, installé en Bretagne, vous êtes également membre du comité de rédaction de la revue Apulée. Votre actualité est double. D'une part, la parution de votre nouveau livre, Serge Kantorowicz, le meneur d'ombre, une monographie érudite et profondément sensible, consacré à cet artiste expressionniste et graveur né en 1942, dont l'œuvre est profondément marquée par l'histoire de la Shoah. D'autre part, vous signez le commissariat de l'exposition Paris Capital Monde à la Galerie Saphir, dans le cadre du Festival des Cultures Juives, une exposition qui met en lumière les peintres juifs de l'école de Paris, parmi lesquels Serge Kantorowicz occupe une place particulière. Votre travail tisse un lien rare entre l'histoire de l'art, l'écriture et la mémoire. Est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important?
Alors, non, c'est pas important. Enfin, si, la Toulousaine que j'ai été le revendique, j'ai
D'accord.
fait des études à Toulouse.
C'est à Toulouse.
Pas à Strasbourg.
D'accord. Alors, votre actualité, c'est cette monographie. Pourquoi avoir choisi de consacrer un travail à Serge Kantorowicz?
Si j'étais une psychanalyste jungienne, je dirais que c'est une assignation destinale. C'est presque ça. C'était une évidence pour moi, d'abord parce que je l'ai bien connu. Et j'ai découvert ce peintre flamboyant, expressionniste, dans une espèce de séisme de couleurs, de violence, de passion. Et il méritait bien un livre, parce que l'histoire de l'art, c'est aussi lutter contre l'oubli des oubliés. L'histoire de l'art, disait Abi Warburg, grand historien de l'art aussi, l'histoire de l'art, c'est une histoire de fantôme pour les grandes personnes. Donc l'histoire de l'art, ce sont des résurgences, ce sont des labyrinthes, d'où parfois on émerge, parfois non. Et je voulais en quelque sorte réparer quelque chose, alors peut-être dans le tikkun olam, je ne sais pas, de l'ordre d'une réparation presque destinale et presque cosmique, sauver cette œuvre qui est quand même une œuvre magnifique.
Est-ce que vous l'avez rencontré physiquement? Vous avez
oui.
rencontré son œuvre, mais l'homme?
Oui, je l'ai rencontré. C'était, comme je le dis dans la postface, c'était d'abord, je me souviens de son rire, hein, un rire de farfadé, de lutin malicieux, un rire léger, mais qui était toujours prêt à se rompre dans la brisure. Et puis, cet élan de jubilation, cette joie dionysiaque qu'il avait presque tonitruante alors qu'il était... Il est sorti d'une béance, il est sorti d'un gouffre.
Alors justement, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots des grandes lignes de sa biographie? Il est né pendant la Shoah, il est décédé il n'y a pas très longtemps, en 2022,
oui.
je crois. Qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux dates?
Une vie. Il a été un petit peu comme le personnage de James Joyce, Ulysse, c'est-à-dire quelqu'un qui a vécu l'horreur, l'innommable quelque part, avec ce corps, son propre corps dont il n'arrivait pas à saisir la densité, sauf lorsqu'il le projetait dans sa peinture, un peu comme la danse chamanique de Jackson Pollock. Et il a été l'enfant mutique, bâillonné, l'enfant caché, l'enfant à la bouche cousue, hein, l'enfant d'un peuple assassiné, d'une langue assassinée. Donc il s'est reconstruit à travers le yiddish de sa grand-mère. Mmh. Il a eu la chance aussi de rencontrer des très grands peintres, hein. Comme John Mitchell, Rio Pell, Zawuki, il a gravé pour les ateliers Mecht. Il a été, il s'est construit, s'est reconstruit avec une force peu commune.
Alors, ses parents, Esther et Abraham, ont été assassinés à Auschwitz.
Oui.
Lui-même a été conçu dans les camps, est-ce que c'est vrai? Et donc, il n'a presque pas connu ses parents. Comment il a survécu? Comment un nourrisson peut survivre à cette époque?
Il a été caché. Il a été confié à des paysans, à la campagne. On sait très peu de choses. Hein. On sait que sa grand-mère l'a récupéré. Il avait déjà presque 5 ans. Il parlait presque pas. Et c'était un petit peu comme le crénom de Baudelaire. Il était presque aphasique. Et puis il était avec cette femme incroyable, Gitla, sa grand-mère, qui ne lui parlait que yiddish. Et elle l'amenait, ce que je raconte dans le livre aussi, c'est terrible. Hein, tous les matins, tous les jours, elle l'amenait Gare de l'Est, où arrivaient les trains. Et elle-même avait perdu le souvenir des traits de sa fille Esther, et elle brandissait une photo presque noire, presque effacée, en cherchant désespérée sur le visage décharné des femmes qui revenaient des camps le reflet de sa fille perdue. Et Serge a été complètement envahi, envoûté par cette image impossible de sa mère, et j'ai... Il y a quelque chose d'insensé dans cette recherche quand on est peintre. Quand on est peintre, on a cette folie du visage impossible qui est presque comme une icône. Hein. Et il l'a cherché partout, il l'a cherché toute sa vie dans tous les visages des femmes qu'il a peint. Et donc il y a une béance, il y a une perte terrible, un gouffre qui le fonde dès le départ.
Le sous-titre est le meneur d'ombre. Est-ce que l'ombre, ce sont toutes ces victimes de la Shoah? Alors les siennes, hein, celles de sa famille et les autres? Pourquoi ce titre?
C'est un titre très étrange qui m'est venu en référence au conte fantastique de Bashi Wissinger, en référence au meneur de loup aussi, hein, à ces personnages qui sont des intersignes et qui jaillissent comme ça un peu du néant pour rappeler aux êtres humains qu'ils ont une conscience et qu'ils doivent écouter leur conscience. Et c'est comme un meneur d'ombre, hein, si on regarde sa peinture, il fait jaillir ses morts inconsolés, ses dibouks, hein, qui sont des figures spectrales. Et il est tout à fait d'ailleurs dans ce monde de la littérature, hein, du Yiddishland, ces personnages fantastiques qui sont des schnorrers, des vagabonds illuminés, mystiques, qui parlent aux êtres humains avec des voix tantôt célestes, tantôt démoniaques. Et il y a chez lui une appétence à faire jaillir les spectres, une appétence à faire jaillir aussi ces fantômes du Yiddish, hein, c'est ce que Bashi Wissinger disait, les fantômes, les morts parlent tous Yiddish, les spectres aiment le Yiddish. Donc il y a ce lien aussi, un petit peu comme c'est une sorte de chaman, de chaman du Yiddishland, Serge Kantorowicz, hein, qui est là et qui invoque, qui convoque, parce que toute sa peinture est une incantation à l'abîme, hein, mais pour faire ressurgir, pour faire ressusciter toutes ces ombres autour de lui, il suscite une houle vertigineuse, hein, quand on est face à ses œuvres, on voit véritablement toutes ses âmes, tous ses corps, et ce qu'il dit, c'est très fort aussi, c'est que la peinture a le pouvoir de ressusciter les corps incendiés, les corps qui sont tombés en cendres, qui ont été brûlés, assassinés. C'est très très fort, cette peinture.
C'est vrai qu'à vous lire et à voir ses œuvres, on pense à tous ces conteurs du Yiddishland qui font un trait d'union entre le passé, un monde qui n'existe plus et qui ne pourra plus exister, et puis le présent, et notamment Elie Wiesel, oui, avec ses shtetls, ses petits villages habillés de tous ceux dont vous parlez. Des sages, des fous, des juifs errants, peut-être aussi des rabbins. Alors, il y a des questions que je vous poserai à ce sujet-là. Et donc, ce livre, il faut dire comment il est constitué. Il y a vos textes qui sont très poétiques, avec des citations de grands auteurs en exergue. Et on se demande finalement si c'est votre plume qui illustre les œuvres ou si ce sont les œuvres qui vous inspirent ce que vous dites. En fait, qui illustre quoi? Comment vous avez pensé ce livre concrètement?
Je l'ai pensé, je l'ai vécu, en fait, c'est une forme d'incarnation. C'est aussi un thème qui me tient à cœur en tant qu'historienne de l'art. Comment la peinture peut incarner ou désincarner ou être habité. Hein. Tout à l'heure, je parlais de Jackson Pollock qui n'habitait pas son corps, et le seul moment où il habitait son corps, c'était ce moment où il projetait de la peinture sur une surface. Il y a quelque chose que c'est un petit peu ça aussi. D'ailleurs, c'est ce que Rachel Hertel m'a dit quand elle a lu le livre. Elle m'a dit, mais il y a une fusion. C'est presque une entité bicéphale. C'est comme si j'avais fusionné avec la peinture de Serge, à moins qu'il n'ait complètement fusionné en moi. Et dans ce cas, c'est moi qui suis dibouquisée. Il y a quelque chose comme ça avec ce livre. Mais c'est une histoire de l'art. Pour moi, je peux pas me prétendre historienne de l'art si je n'entre pas dans l'œuvre ou si l'œuvre n'entre pas en moi. Hein, c'est comme le rapport de Serge avec la littérature. Par exemple, on avait le même rapport tous les deux. Hein, cette passion qu'il a eue pour Victor Hugo, tout à coup, on est face à un univers qui est un univers qui sème des éblouissements dans la chair, dans l'esprit et qui permet aussi de survivre. Et comment je l'ai écrit? Mais je sais plus comment je l'ai écrit. C'était vraiment dans un... Oui, c'était totalement fusionnel. Ce livre est une sorte de sismographe.
Est-ce que vous croyez à cette autre chose qui pourrait être une sorte de correspondance des âmes, alors de spiritualité partagée, peut-être des origines communes ou un passé tragique aussi qui pourrait être le vôtre?
Peut-être dans l'inconscient, certainement. C'est vrai que j'ai. Vous parliez de poésie, c'est vrai que j'ai publié quelques recueils de poèmes. J'ai publié aussi un texte qui s'intitulait Le cœur vivant des ombres, qui est un texte autour d'Auschwitz.
Mais toujours ces ombres.
Oui, toujours. Oui, c'est vrai. C'est moi qui suis hantée aussi. Et il y a quelque chose aussi, forcément, de ma part, comme peut-être un exorcisme à travers la littérature, la peinture. Mais c'est quand même une œuvre puissante qui vous happe. C'est une œuvre qui ne vous laisse pas intacte. C'est une œuvre qui vous ravage. C'est une œuvre qui est aussi très expressionniste, hein, presque dans le sens où l'entendait Egon Schiele, grand peintre viennois qu'adorait Serge Kantorowicz. Hein, c'est-à-dire. L'artiste rit en dehors, mais il est brisé au-dedans de lui-même. Oui. Et quand on est là, tout à coup, dans cette brisure, dans cette béance, disons-le, cette béance civilisationnelle qu'a été, qui est toujours la Shoah, c'est-à-dire dont l'Europe n'a jamais pu se relever, ne peut pas se relever, parce que c'est une rupture de l'humanisme qui tombe en lambeaux, c'est une rupture, et c'est une vraie convulsion de convulsion terrible, spirituelle, politique, qui marque et qui tue, mais dont on peut peut-être s'extraire à force de transcendance, parce qu'il y a une transcendance dans ce travail.
Qu'est-ce que vous disiez, Serge Kantorowicz, du geste de peindre? Est-ce que c'était pour lui quelque chose de cathartique? Vous parliez de Tikkun Olam, de réparation, oui, du monde. C'était finalement comme une sorte de fil conducteur, la Shoah, et il ne pouvait ni s'en dépêtrer, et en même temps, c'était une façon d'être soigné que de la peindre.
Oui, c'est le pharmacone, hein, ce qui vous quelque chose qui vous empoisonne mais qui vous guérit aussi. C'est le. On parlait souvent de Méduse ensemble, du regard de Méduse, du masque pétrifiant méduséen et apotropaïque de Méduse. Et chaque fois que je le voyais peindre, je pensais à ce tableau terrible et beau du Caravage, hein, l'autoportrait à la tête coupée, où pour la première fois dans l'histoire de l'art, il y a un artiste qui affronte son reflet narcissique et qui est à la fois Persée et la Méduse. Et oui, il y avait quelque chose comme ça chez lui, d'un affrontement avec les ombres du passé. Le chagrin absolu d'avoir perdu ses parents, il me disait souvent, c'était très émouvant, il me disait « tu crois que je vais les retrouver un jour ?» Et c'était assez terrible. Et quand j'ai écrit ce livre, je l'ai écrit aussi comme une sorte, d'ailleurs je le dis dans le livre, comme une sorte de kadish, de mots, d'encre, de peinture, comme une prière, comme une incantation, mais aussi comme une sorte de talit qui doit envelopper les corps qui sont morts sans sépulture, morts sans prière, abandonnés. Et je pensais à Paul Celan, à Nelly Sachs, à toute cette poésie, hein, de l'après-Shoah. Rachel Hertel dit dans ses très beaux livres le poésie, une littérature qui vient du dedans, de l'anéantissement. Mais il n'y a aucune langue, aucun peuple, aucune humanité qui peuvent être anéantis, au fond. On trouve des mots dans la cendre. Et c'est ça, c'est qu'il y a une force, une résilience. Je pense aussi à un très beau roman de Leigh Brohman, À pas aveugle de par le monde, qui vous saisit, qui vous remplit, qui vous dévaste, avec ce ballet, vous vous souvenez, ce ballet de fantômes, cette chorégraphie de spectres, complètement orgiaque, qui vient envahir le livre comme ça. Et on ne sait pas si c'est la mort ou si c'est la vie qui revient. Et c'est fascinant.
Alors, ce que vous expliquez est partagé par un grand nombre d'enfants de victimes de la Shoah, c'est les victimes sans sépulture, c'est de savoir que peut-être un jour, elles pourraient revenir. Une œuvre comme un kaddish, une sanctification du nom de Dieu, puisque finalement, aucune prière n'a pu être prononcée, ils n'ont pas pu être enterrés. Est-ce que ces œuvres, pour vous, sont une sorte d'hommage rendu à toutes les victimes de la Shoah, une sorte de prière sans kaddish?
Oui. Oui, j'ai pensé à ça lorsque j'écrivais le livre. Je pensais aussi à ce que Franz Kafka dit de l'écriture, que l'écriture est comme une prière et aussi comme ce brasier ardent qui brûle mais sans consumer. Je l'ai écrit vraiment dans une flamme vive, mais dans la flamme de la. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. C'est comme un kaddish profane, mais un kaddish à la mémoire. Et là, c'est étrange parce que tout à coup, je me piège toute seule parce que je me rends compte que tout ce que j'ai écrit depuis des années, que ce soit autour du Mont Yiddish, que ce soit autour de l'Argentine, de tous les livres que j'ai publiés, tous les poèmes que j'ai pu écrire sont des prières pour ceux et celles qui sont morts, assassinés, qui ont été victimes de dictatures sanglantes et qui sont morts aussi dans des actes de résistance absolue.
Alors c'est l'intérêt aussi de lire un tel ouvrage avec ces œuvres qui nous touchent, moi qui m'ont touchée, parce que il y a des conflits partout dans le monde et finalement ces œuvres sont universelles. Parce qu'elle parle de la souffrance de tous les peuples. Et la question que je voulais vous poser, je ne sais pas si vous avez la réponse. Est-ce que le judaïsme était présent, alors peut-être pas au quotidien, mais en tout cas de temps en temps, chez Serge Kantorovitch? Est-ce que, alors sans entrer dans la fameuse question, est-ce qu'il croyait en Dieu ou pas, c'est pas le problème, mais est-ce qu'il célébrait certaines fêtes juives?
Oui, il allait à la synagogue, oui. Je le sais, mais c'est le judaïsme, c'est vrai que j'ai écrit plusieurs chapitres, notamment autour de la série des synagogues, le judaïsme est très 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 présent, la Kabbale aussi.
Oui. Alors... Mais au-delà de l'œuvre dans la vie.
Je crois qu'il célébrait des fêtes et qu'il allait... On m'a dit qu'il allait souvent à la synagogue, donc c'était quand même quelque chose, même s'il en jouait, parce qu'il avait beaucoup d'humour, il avait beaucoup de distance par rapport à lui et par rapport à sa tragédie. Il avait un humour, alors là, typiquement yiddish, d'ailleurs il parlait yiddish, donc cet humour yiddish qui est une façon de rire par-dessus les tombes, une façon de rire par-delà la cruauté et le destin qui s'acharne sur vous. Mm-hmm. Donc oui, je sais que c'était quand même très... ça lui appartenait aussi, dans une forme de secret aussi avec lui-même.
Alors, vous parlez du yiddish, vous allez comprendre pourquoi je vous pose cette question. Est-ce que vous parlez toujours yiddish dans vos rêves? Et est-ce que vous pensez que l'œuvre de Serge Kantorovitch parle yiddish?
Oui, on parle beaucoup de langues, la langue des rêves, oui, c'est ce que je dis, c'est une langue qui m'a toujours paru familière et comme une langue onirique, comme une langue rêvée.
Alors on peut dire à quoi ça vous fait penser, un article paru dans une revue, est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, je voudrais parler du Yiddish Land dans l'œuvre de Serge. C'est vrai que il y a un chapitre dans le livre. Alors, j'ai dû l'écourter parce que malheureusement, vous le savez, on a souvent des contraintes éditoriales. Et c'est dommage parce qu'il y avait tout un chapitre autour des animaux, bon, que j'ai publié dans Tribune Juive, par ailleurs, si les gens veulent aller voir. Mais il était un véritable schnorrer de Dieu pour moi. Il avait ce côté parfois quand on a... le voir dans son atelier, dépenaillé, presque paillard parfois, avec cette dérision et ce goût aussi, ce qui m'a toujours frappé chez lui, comme dans les contes de Sholem Aleichem, le sentiment d'avoir échappé au désastre, mais aussi le sentiment que la catastrophe est toujours certaine, et en même temps... une espèce de distance ironique et une espèce de jubilation presque nietzschéenne dans le sens où oui, il y a ce rire tonitruant qui est là, qui permet de survivre à la mort. et même à la mort des proches, de ceux qu'on a aimés et qu'on a perdus, et dans son cas, c'est encore pire, qu'on n'a pas connu, parce qu'il y a toujours ce visage impossible de la mère, hein, c'est ce que dit le psychiatre Winnicott quand il parle des tableaux de Francis Bacon, c'est-à-dire que ce visage de la mère qui apparaît au nouveau-né comme une espèce de magma indicible, terrifiant, mais c'est encore pire quand c'est un visage absent, une espèce de projection.
Et là, on est vraiment chez Emmanuel Lévinas que vous citez, dans son système de pensée du visage de l'autre, du visage d'autrui, qui est souvent mal interprété chez le philosophe, c'est finalement ce qui nous est irréductiblement autre, sur lequel on n'a pas de prise. Et là, chez Kantorowicz, c'est exactement
ça. C'est ça, c'est pour ça que j'ai cité Lévinas. Et vous avez raison, c'est souvent, c'est comme la fameuse citation d'Adorno, où on se rend compte que les gens n'ont pas lu la suite, puisqu'ils s'arrêtent à, il faut surtout pas écrire de poèmes après Auschwitz, mais il a écrit autre chose après. Et surtout, il faut écrire des poèmes après Auschwitz pour porter témoignage des larmes, des souffrances, et pour porter la plainte de ceux qui ne peuvent pas. Surtout, il faut écrire et créer. Et je pense que Serge était vraiment dans cette injonction-là. Et ce visage, ce visage impossible qui est autre, donc inatteignable. Dans la série sur Proust, par exemple, Serge Kantorowicz a beaucoup pratiqué la recherche du temps perdu. Et pour cause, le temps perdu, c'est aussi le visage perdu de la mère. Il y a ce passage extraordinaire chez Proust où le narrateur essaie de définir le visage de sa mère, et il ne peut le définir que par tableau interposé, et il le définit à travers une scène qui représente la reine Esther. Or, Esther, c'était le prénom de la mère de Serge Kantorowicz. Et il y a ce visage, il y a la littérature qui fait écran sur ce visage impossible, qui est presque le visage de Moïse sous son voile.
Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur la question du temps. Le temps biblique est cyclique. Le mot histoire n'existe pas en hébreu, c'est toldot, l'engendrement des générations. Et on voit que dans son œuvre aussi, le temps se répète. C'est vraiment une œuvre juive. Alors, j'en viens à cette question. Par rapport à son style et au courant à l'école où on pourrait le rattacher, évidemment, c'est l'école de Paris. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce que c'est judicieux de dire ça? Est-ce que ça le limite ou est-ce que c'est pertinent? Qu'est-ce que vous en pensez?
Pour moi, c'est pas tout à fait l'école de Paris. Oui. Ça l'est évidemment par une certaine sensibilité culturelle. Mais c'est surtout un expressionniste dans le sens, par exemple, lui, il revendiquait de l'école de Paris. Je pense que l'artiste dont il était le plus proche, c'est Soutine, évidemment. Mais Soutine dépasse largement l'école de Paris. Mais pour moi, et je pense tous les artistes, dont il se sentait proche, ce sont surtout les Viennois, les Viennois érotiques, cosmiques, cataleptiques, là, les Egon Schiele, les Kokoschka, Klimt, et puis Koubine, Alfred Koubine, qui est un peintre totalement inclassable, qui est un post-symbolisme et qui est aussi un expressionniste. Expressionniste dans le sens d'une posture philosophique aussi, parce que est expressionniste l'artiste ou l'écrivain qui est véritablement dans une souffrance, dans une sorte de spasme d'horreur et de résistance face à l'existence humaine. Il y a ça aussi dans la peinture de Serge. Et puis vous regardez la couverture, il est un expressionniste très abstrait aussi. Il était très proche de Rothko, très très proche aussi de Jackson Pollock. C'était son époque aussi. Mais expressionniste, vraiment pour moi, c'est une posture presque ontologique chez lui.
Nous sommes toujours dans Du côté de chez Schwartz, l'émission culturelle et actuelle de Radio Shalom, en compagnie de Delphine Durand, qui nous parle de son ouvrage d'art Serge Kantorowicz, Le meneur d'ombre, et maintenant de l'exposition qu'elle a conçue pour la Galerie Saphir. Alors le lien est tout fait, vous êtes commissaire de l'exposition Paris Capital Monde à la Galerie Saphir, c'est dans le cadre du Festival des Cultures Juives. Il faut signaler, l'entrée est libre, donc tout le monde peut y accéder gracieusement. Est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est l'École de Paris ?
Alors l'École de Paris, il y a eu plusieurs écoles de Paris, mais alors d'abord c'est quand
celle-ci,
même...
Celle-ci, dans l'exposition.
Alors, C'est une exposition qui est très vaste et très généreuse, très polyvalente aussi. Alors je voudrais quand même préciser que c'est Francine Shapiro
qui est une
femme de cœur, une femme d'esprit, une très grande galeriste que j'admire et qui a initié, autour d'un hommage à Serge Kantorowicz, cette exposition Paris, capitale du monde, où effectivement sont convoqués les artistes de la première école de Paris, c'est-à-dire les artistes qui ont fui les territoires de l'Empire russe, qui ont fui les pogroms, pour venir se réfugier à Paris, puisque l'essentiel de cette exposition, c'est de faire rayonner Paris comme une capitale refuge, comme un havre de paix, comme une ville irradiante et magnétique, où évidemment tous les intellectuels aussi qui ont fui le nazisme, Hannah Arendt, Walter Benjamin, et plus tard d'autres intellectuels comme Samuel Beckett, beaucoup d'artistes étaient en exil, beaucoup d'intellectuels étaient en exil à Paris. Plus tard, dans les années 90, les intellectuels algériens aussi qui ont fui la guerre civile. Donc Paris a toujours été une sorte a toujours eu une sorte d'aura, et cette exposition, c'est une exposition qu'il faut absolument aller voir, parce que évidemment il y a les artistes de l'école de Paris, Chagall, il y a une œuvre de Chagall qui est sublime, Sonia Delaunay, on a les très très grands noms de l'école de Paris, on a aussi Manet Katz, enfin tous ces grands artistes que Francine représente avec tant de brio et d'intelligence, mais aussi le monde, c'est un monde qui palpite. Wilfried Olam par exemple, qui a été un grand artiste caribéen, ami d'Aimé Césaire, d'André Breton, donc il y a aussi toute une partie qui concerne le surréalisme, une partie aussi qui va concerner c'est pour ça que ça dépasse largement effectivement l'école de Paris.
Oui. Alors l'école de Paris, c'est vrai que ça a été aussi appelé comme ça parce qu'il était difficile de la définir précisément.
C'était des artistes indéfinissable.
Oui, d'horizons différents, qui n'étaient pas forcément juifs d'ailleurs.
Oui, oui.
Et comme vous le disiez, Paris était une sorte de carrefour de tous les espoirs.
Oui.
Et donc toutes les personnalités ou artistes dans le domaine pictural ou même de la littérature, de la poésie ou du théâtre, se retrouver en sécurité entre guillemets parce que la Shoah est arrivée après. Donc parmi ces œuvres, il y a celle de Serge Kantorowicz.
Oui.
Comment vous les avez, qui les a choisies, ces œuvres?
Alors,
exposées,
nous les avons choisies, Francine et moi.
Oui.
Il y a une série absolument étincelante autour de Victor Hugo. Là où on retrouve, alors c'est une veine qui est très différente, on retrouve vraiment l'aspect océanique, le maelstrom, vraiment l'homme océan et la puissance onirique, torrentielle et fulgurante de Victor Hugo, à travers une technique aussi, technique extraordinaire de Serge Kantorowicz, c'est-à-dire qu'il... Comme Victor Hugo, il a collé des bribes de papier, de copeaux tombés. Il a mêlé la gravure à l'écriture. Alors là, en filigrane, on a même une écriture qui rivalise avec celle d'Hugo. Hein. C'est vraiment l'ekphrasis, c'est sublime. Il y a aussi des œuvres à voir du grand écrivain Hubert Haddad, qui est aussi peintre, qui a fait toute une série justement autour des contes et des légendes. Autour du Dibouk, autour de Lilith, il y a une très belle toile aussi de Serge Kantorowicz qui représente une Lilith très symboliste, donc dans une veine aussi très singulière, des choses magnifiques, oui. Il faut absolument aller voir.
Alors Paris capitale monde, mais il y a une petite citation pour débuter,
oui.
Et elle est très importante.
Oui.
En art, il n'y a pas d'étranger.
J'ai choisi cette citation de Brancusi parce que effectivement, il y a une abolition de l'identité. Avec des peintres, des artistes qui revendiquent aussi une identité. Hein. Il y a l'identité dans la non-identité. Mais il y a une abolition des frontières, si vous voulez, qui fait que l'art demeure, et même encore aujourd'hui, la seule façon, d'abord le plus haut degré de flamboiement de l'esprit humain, et la seule façon de résister à l'inhumanité qui nous guette chaque jour, hein, de résister à une perte philosophique. Francine Shapiro fait toujours des expositions magnifiques, mais cette exposition-là, je la trouve particulièrement combattante, courageuse, irradiante, et c'est une femme lumineuse d'ailleurs, et je suis très très fière de travailler avec elle. Mais là, il y a par exemple un peintre qui est Gérard Sekoto, grand peintre sud-africain. C'est d'ailleurs assez étrange parce qu'il suffit de traverser la rue et à Beaubourg, vous avez l'affiche de Paris Noir, très belle expo aussi, qui est un autoportrait de Sekoto. Sekoto qui a été aussi un homme qui a lutté contre l'apartheid, qui était exilé en France, à Paris. Et donc l'idée directrice, c'est quand même la lutte pour l'idéal de liberté.
Il y a une question classique, mais néanmoins difficile pour terminer cette émission. Si, en une ou deux phrases, vous deviez donner l'envie aux auditrices et aux auditeurs de Radio Shalom et de lire votre livre, Serge Kantorowicz, Le Meneur d'Ombre, et d'aller visiter l'exposition Paris Capital Monde à la Galerie Saphir, qu'est-ce que vous leur diriez?
D'accepter de sortir de soi, d'aller vers les autres, de voir toute cette lumière qui irradie des autres au milieu de toute l'horreur qu'on subit, de toute la souffrance qu'on subit dans ce monde humain. Il y a un courage, il y a la beauté. Je ne sais pas si la beauté sauvera le monde, comme le disait Dostoïevski, mais il y a une beauté extraordinaire, un courage, quelque chose qui fait qu'en sortant de cette exposition ou en lisant ce livre, peut-être, on se sent heureux d'être un être humain malgré tout.
Et la beauté aide à choisir la vie,
oui,
selon l'adage biblique.
Elle choisit la vie, oui.
Merci beaucoup,
merci
Delphine Durand, d'avoir accepté d'être parmi nous pour nous parler de votre double actualité. Donc, je rappelle, Serge Kantorowicz, Le Meneur d'Ombre, publié aux éditions Sylvana Éditorial. Et l'exposition En art, il n'y a pas d'étrangers, Paris Capital Monde, actuellement à la Galerie Saphir, qui se trouve 69 rue du Temple, Paris, dans le 3e. Merci beaucoup, à très
merci
bientôt.
Merci à vous, à bientôt.